Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est avec joie que nous vous accueillons en ce matin. Alors ce matin, c'est un jour spécial pour nous chrétiens, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Voilà, donc... Et le jour de la Pentecôte, en fait, je me rends compte que ça ressemblait à un jour comme ici, comme maintenant. Il y avait quelques personnes qui s'étaient réunies en quelque part, dans un lieu, dans une maison, pour se recueillir, en fait, autour de Jésus, finalement, et prier ensemble, parce qu'ils avaient soif aussi de lui, et puis soif aussi de voir la promesse réalisée, en fait, parce qu'il leur avait promis quelque chose. Alors, vous pouvez dire à ceux qui sont à côté de vous, ou devant vous, derrière vous, Jésus tient ses promesses. Ah, je vous ai pas... Donc voilà, Jésus tient ses promesses. Et oui, même Dieu tient ses promesses. Et la promesse, finalement, c'est réalisé. Il y a notre frère qui viendra tout à l'heure lire ce passage merveilleux dans Acte 2. Mais en préparant ce programme de louange et d'adoration, Dieu m'a mis sur mon cœur un verset dans 1 Corinthiens. Vous connaissez tous ce verset. En tout cas, ceux qui sont habitués à lire la Bible. Mais ceux qui ne sont pas encore habitués, vous allez le connaître aujourd'hui. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous ?» Alors moi, quand j'ai lu ce passage... Ça a fait comme il y a un jaillissement qui est sorti de ma tête. Ça, pouf, comme ça. Pourtant, je le connaissais, mais je n'avais pas pris conscience en fait de toute l'ampleur de ce passage. Et il y a à la lumière de Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu comme un feu et les personnes ordinaires sont devenues, ont commencé à faire des choses extraordinaires. Comme nous, finalement, Dieu nous donne, nous sommes des personnes simples et ordinaires, mais en Christ, nous faisons des choses extraordinaires. Je me souviens toujours de ces temps où j'allais dans les camps de GBU, où en même pas 5 jours, on était réunis et puis on faisait des choses, mais vraiment extraordinaires. Ce qu'on n'était pas capable de faire des fois quand on était à l'église en 2 mois. Hein? Les chants étaient parfaits, les chorégraphies merveilleuses. On avait des idées d'imagination extraordinaires. Vraiment, s'ils sortaient de l'ordinaire. Parce qu'on était tous réunis et puis on était vraiment dans la présence de Dieu de manière spectaculaire. Et la personne ordinaire que j'étais faisait des choses extraordinaires. Et c'est ce que, en fait, qui s'est passé avec le Saint-Esprit, quand il agit en nous. Et là, j'ai réalisé, pour revenir aux Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous ?» Et je me rends compte que je ne me suis pas souvent comporté comme étant quelqu'un ayant l'esprit de Dieu en lui. J'avais oublié, je ne sais pas si j'avais oublié ou si je n'avais pas pris conscience pleinement en fait de ce passage. L'Esprit de Dieu habite en toi parce que tu es le temple de Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui l'as choisi, Dieu c'est une déclaration. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? En fait, toi qui étais au Seigneur, tu es son temple. Et par ce fait, son esprit habite en toi. Donc, de ce fait, tu es appelé aussi à faire des choses extraordinaires. À ne pas te laisser finalement en proie au doute, à la crainte, à la peur. Et souvent, je me suis laissé dominer par mes peurs. Mais je n'avais pas réalisé que Dieu habitait en moi et que son Esprit Saint habitait en moi. Et c'est là, en fait, que cette semaine-là, je me suis dit, mais Seigneur, franchement, En général, je viens, je prépare quelque chose pour l'église, mais je reçois, en fait. À chaque fois que je prépare un truc, c'est pour moi. Donc, je viens vous transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais d'abord, Dieu m'a parlé. J'espère qu'il vous parle en ce moment. Pour vous dire, mais n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes des temples ambulants, en fait, on va dire comme ça. Vous marchez là comme ça, mais vous êtes le temple de Dieu. Les gens ne savent pas ça, ils ne voient pas ça, mais vous êtes le temple de Dieu. Et que de son temple-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a l'Esprit de Dieu en plus, qui est là. Donc la présence de Dieu est en vous. Je ne sais pas, mais quand j'ai réalisé ça, je ne sais pas, j'étais comme ça. Et puis j'ai commencé à lever la tête dans le train comme ça. Et bien, je me suis dit, oh oh, je suis quelqu'un de spécial, parce qu'il y a quelqu'un de spécial qui vit en moi, et que je n'ai pas à marcher la tête baissée. Oui, la personne ordinaire que je suis a des faiblesses, mais il y a une force extraordinaire qui vit en moi, qui me rend fort. Et qu'à chaque fois que je suis faible, je suis fort finalement. Parce que je marche autrement, c'est pas moi qui ai décidé d'être fort. Mais c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est fort en fait, qui me rend fort. Alors donc, 1 Corinthiens 3 verset 16 a repris tout son sens dans ma vie. Et c'est là que je vois que la parole de Dieu est quelque chose de très moderne en fait. Elle s'adapte à tout le temps. Je n'agis pas par mes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Et la Pentecôte nous rappelle que Dieu ne nous a pas abandonnés. Un jour, Dieu a envoyé son Fils pour moi, pour toi, pour nous. Jésus-Christ a, durant son vivant, a parlé de ce qu'il avait connu là-haut dans le ciel, auprès du Père, et a rendu la dignité à beaucoup de personnes qui avaient perdu ou qu'on disait qu'ils étaient méprisables. D'ailleurs, il est dit qu'il est venu pour ceux qui étaient malades, en fait, perdus. Il a choisi des disciples, mais des personnes exclus finalement, collecteurs d'impôts qui n'étaient pas bien vus, des pêcheurs qu'on dit pas forcément très instruits. Il a décidé que ces personnes, en fait, seraient les grands que nous louons, en fait, finalement, que lorsque nous parlons d'eux, ben, on dit, mais ils ont une vie extraordinaire, mais on oublie, en fait, qu'ils étaient des personnes aussi ordinaires que nous. Mais Dieu les a choisis. Et Dieu, à travers eux, en fait, a établi son royaume. Et le message, et a transmis son message. Après, Jésus, oui, certes, on nous a dit qu'il est mort sur la croix. On disait, oh là là, il est mort sur la croix. Tout est perdu, finalement. Et non, il avait dit lui-même que le troisième jour, il allait ressusciter. Et c'est ce qui se passa. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il y a plus de 500 témoignages de personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Et après, il a encore fait des miracles. Il a encore parlé, il a encore enseigné. Et puis à un moment, il est parti. Il s'est élevé. Ah, Jésus encore nous a abandonnés. Et là, la promesse. Et on arrive à ce jour de Pentecôte. Et il nous laisse, moi je dis, sa présence toute puissance, le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas, qui traverse les temps. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob et notre Dieu. Tu as promis, Seigneur, d'être toujours là auprès de nous, Seigneur. Et à chaque fois, Seigneur, tu t'es montré à la hauteur. Et dans les moindres difficultés, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi. Non seulement, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous laisses aussi ta présence, Seigneur, qui habite constamment en nous parce que tu as dit que nous sommes ton temple et que ton esprit habite en nous. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais. Cadeau qui nous aide à affronter la vie, Seigneur, et à faire des choses vraiment extraordinaires en ton nom. Alors en ce matin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir en chacun de nous, éternel Dieu. Que tu puisses nous parler, Seigneur, de bouche à bouche, Seigneur. Que tu puisses, qu'on puisse aussi écouter ce que tu as à nous dire en ce matin. Et que tu puisses nous transformer comme tu sais si bien le faire. Mais nous voulons, Seigneur, aussi ce matin, Seigneur, te donner toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Parce que tu es digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être adoré. C'est toi, Seigneur, que mon cœur aime. C'est toi que nos cœurs aiment. Alors manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies et reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs, éternel Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur sur nous, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main tiens-nous cachés, garde-nous au creux du lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. repose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous.
Est-ce que vous êtes prêt à lancer un cri de joie pour votre Seigneur ? Alors, mes frères, mes bien-aimés frères, c'est parce que les femmes ne sont pas là en partie que faut leur montrer qu'on est présent aussi dans cette église. Hein ? N'est-ce pas ?
Amen.
Ah ben ! Amen. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Amen. Merci.
Le Seigneur marche dans la splendeur. Et il avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais, à jamais. Son armée sort avec des danses, car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance, son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur. Son amour demeure à jamais, à jamais, à jamais.
Amen. Et proclamons encore que notre Dieu, il règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière me lance un cri de joie. Ouh ! Lance un cri de joie. Oui, parce que nous, son peuple, nous nous réjouissons d'avoir un tel Seigneur, un tel Sauveur.
Oui, Dieu. Lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie. Lance un cri de joie, peuple réjouis-toi, car ton Dieu règne. puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oh, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi. Proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire, car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu. La terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne.
Alléluia. Est-ce que vous pouvez éclater en louange et dites au Seigneur, oui Seigneur, tu règnes et je te loue parce que tu règnes. Louange à toi. Nous ne savons pas le jour
sois glorifié dans tes bénissons.
Amen.
Seigneur, nous te bénissons de ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que Dieu, tu nous aimes. Ce matin, Seigneur, l'église réunie, l'église chrétienne. Il a été comble dans son amour, envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix. Seigneur, le péché est facile. Seigneur, nous avons dit que Dieu est juste, Dieu est justice, parce que Dieu n'est jamais juste. Tu dis sur la croix, tout est à vous. C'est l'Esprit Seigneur vraiment qui peut nous conduire dans la vérité. Parce que l'Esprit, il parle ce qui connaît Jésus. C'est la vérité. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour cette église. Seigneur, tu as scellé le ton sceau par ces esprits. Parce que c'est l'Esprit même qui peut convaincre l'homme de ses péchés.
Ton Esprit Saint,
façonne-nous.
viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne
de notre Dieu, tellement besoin qu'il agisse en nous. Seigneur, fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. De ta présence, nous avons besoin de toi.
Inonde ce lieu
de ta présence, nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, viens, viens. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.
Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi.
En cet instant.
En cet instant.
Sois
le centre de nos vies.
Et quand moi s'élève un chant,
une mélodie,
oh, témoignant de ta grâce infinie.
Viens,
viens, esprit de révélation.
De toi
en cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie,
nous avons besoin
de toi.
Seigneur, sois le centre
Seigneur,
de nos vies.
Sois le centre de nos vies.
Et quand moi s'élève un chant,
quand moi s'élève un chant,
une mélodie,
mélodie,
oh, oh, oh,
témoignant de ta grâce infinie.
Viens,
viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous.
Viens,
viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous.
Chercher que chercher toi seul, rien d'autre, personne d'autre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence encore ce matin. Merci. Que toute la gloire te revienne. Oh, nous adorons le Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous adorons le Saint-Esprit ce matin. Oh, il est là parmi nous. Oh Jésus.
Oh Jésus. Non, non merveilleux. Non merveilleux.
Merci.
Merci. Merci. Jésus.
Ton nom, Emmanuel.
s'appelle notre frère Claude?
Que la terre entière pousse un cri de joie, car Dieu règne. Amen. Nous sommes dans Actes, chapitre 2, du verset 1 au verset 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, chacun des apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» C'était le septième dimanche après la Pâque, environ 50 jours. Amen.
Merci frère Claude pour cette lecture dans Acte 2. Problème technique. Nous avons brièvement cité tout à l'heure dans nos prières, dans ce qu'on disait, que nous étions perdus, loin de notre Sauveur et loin de notre Seigneur, loin de Dieu, et Jésus-Christ est venu nous chercher là où nous étions et il nous a sauvés finalement. Il nous a guéris de nos maux. Il nous a lavés, purifiés, il nous a redonné un nouveau vêtement. Il nous a redonné de la dignité. Et par-dessus tout, il nous a aimés. Et ce que nous voulons chanter en ce matin, en ce dernier chant, vous dire que l'amour de Dieu est extraordinaire, pardon. Cet amour de notre Père est un amour qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous accompagne, et qui est un feu aussi en nous, qui un feu dévorant. Et c'est pourquoi que Dieu fait tout notre bonheur, n'est-ce pas?
J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, blottis contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père.
J'étais orphelin.
J'étais orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.
Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse. C'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. C'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion. C'est l'amour de notre Père. Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père.
Alléluia. Oui, Seigneur, toute la gloire te revient, Seigneur. Toi le Dieu, toi le seul vrai Dieu. Toi le Dieu qui sait nous aimer, qui sait aussi nous corriger, Seigneur. Qui sait aussi, Seigneur, nous consoler, Seigneur. Toi, le Dieu qui guérit, Seigneur, qui restaure, Seigneur. sois le Dieu qui nous comble de bienfaits, qui nous comble de joie. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire te revienne pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour bien-aimé. Nous bénissons Dieu qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, d'être dans sa présence ce matin. D'être dans la présence de ce Dieu qui est notre Père et de vivre son amour. Stéphane l'a dit ce matin, c'est un culte spécial. C'est l'une des fêtes chrétiennes qui continue encore d'alimenter notre calendrier au point où nous avons même un férié qui est lié à cela. Ce qui veut dire que dans ce pays, il y a une tradition, qu'on dit tradition judéo-chrétienne, jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais pour l'instant, nous en jouissons. Et nous voulons marquer ce temps avec cette lecture qui a été faite dans Actes chapitre 2. C'est la Pentecôte ce matin. Et nous allons voir ensemble quelques textes qui signifient ce que c'est, mais bien plus, comment est-ce que cet événement a marqué durablement l'histoire de notre monde. Vas-y, s'il te plaît. Il le fait sur deux écrans, c'est ça? Je vous invite à réfléchir ce matin sur ce thème. La Pentecôte a été aussi l'éclosion d'une communauté nouvelle, une communauté transformée. L'accent qui est mis sur la venue de l'Esprit de Dieu a une conséquence dont nous sommes les bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui en 2023. Je vous invite à lire un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples au moment où il les prépare à son départ terrestre. Voici des personnes qui ont vécu avec ce monsieur pendant 3 ans. Ils ont été émerveillés par la qualité de sa vie, la simplicité de son amour, alors qu'ils prétendaient régulièrement qu'il était Dieu, ils ont été bluffés de voir que ce Dieu, homme, était simple. Simple, mais quelqu'un de profondément marqué par l'amour de Dieu, qui n'a cessé de le manifester, et qui en plus, avec lui, Dieu a fait des choses extraordinaires qu'ils ont vues. Ils ont vu ces choses. Ils ont été témoins de ces choses. Ils ont été même au bénéfice de ces choses. Et voici que Jésus va leur faire une grande annonce. Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelque temps avant la Pentecôte, Jésus avait eu cette parole pour ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que celui que Dieu a promis vienne. C'est lui qui va faire ce travail de conviction dans un monde qui croit que tout va bien, finalement. On se réveille un matin et on apprend des choses horribles sur notre humanité. Je suis toujours personnellement touché de par ces nouvelles dramatiques. Au nom de l'amour perdu, ces jours-ci encore, il semble que quelqu'un est rentré dans un pavillon, a tué une femme et ses enfants au coup de couteau, dont le petit était un bébé. Comment? Et on nous dit, tout va bien. On n'a pas besoin de Dieu. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il semblerait que cette personne soit quelqu'un qui a aimé cette femme dans un passé. Alors je me pose une question. Comment quelqu'un qui a aimé quelqu'un dans un passé est capable de la tuer et de tuer les enfants de cette dernière? C'est horrible, c'est atroce. J'arrive même pas à imaginer l'atrocité que ça peut être. Voilà le vrai visage de notre monde. Ne nous y trompons pas. C'est ça le visage de notre monde. C'est pour cela que Jésus dit, quand le Saint-Esprit vient, il vous convaincra de péché. Parce que le mal est au cœur de notre humanité. Au-delà de la grâce de Dieu qui fait que le bien continue malgré tout de se voir, le mal est bien tapis et il a des couleurs très noires des fois. Très noires. De la justice, parce que ce monde a besoin de justice, de la justice de Dieu. Du jugement, on n'aime pas ce mot. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut sans qu'il y ait des conséquences. C'est pas possible. Nous sommes tous conscients que les actes que nous posons ont soit des avantages, soit des inconvénients. Ça fait partie de notre humanité. Mais on n'aime pas le mot jugement. Tout le monde dit que Dieu est gentil, que c'est le bon Dieu, qu'à la fin, il nous pardonnera tous. Moi, je veux bien que Dieu fasse ça. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est lui qui dit dans sa parole qu'il est juste. Il est juste. Il ne peut pas tenir l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Sinon, sa justice elle-même serait engagée. Si notre monde est un peu au reflet de Dieu, c'est ce que nous voyons. Quand quelqu'un a fait un mal atroce et qu'il est condamné, et des fois, des victimes qui savent que même ce jugement qui va être fait à la justice ne leur rendra pas l'être aimé, ils disent quand même, on souhaite que la justice passe par là, pour qu'il réponde de ses actes et qu'il soit, des fois on dit qu'il soit condamné à la hauteur du mal qu'il a fait. Et quand on pose la question, est-ce que ça vous rendra votre bien-aimé? Il dit, ça ne nous le rendra pas, c'est vrai. Mais au moins la justice sera passée par là. Et pour Dieu, on dit, non, Dieu, tu effaces tout, même si on a été ce qu'on a été. Mais justement, Dieu le fait d'une autre façon. Dieu efface notre ardoise d'une autre façon. Pas de la façon dont nous le voudrions. La façon dont nous le voulons, c'est que Dieu ne soit pas juste. Qu'il soit juste quelqu'un qui nous laisse faire et qu'à la fin il dise, c'est pas grave. Non, Dieu n'est pas comme ça. En tout cas, selon la parole de Dieu. C'est pour ça que Christ dit qu'il vous convaincra de la justice et du jugement. Pour que nos yeux puissent s'ouvrir sur ce Dieu qui est juste. Et en même temps, il nous envoie le consolateur, l'esprit de vérité, qui vient pour consoler, qui vient pour guider, qui vient pour éclairer, qui vient pour apporter une bonne nouvelle, celle que Christ avait déjà annoncée. Alors voici la Pentecôte. Pentecôte, comme il a été dit dans ce texte, c'est le 50e jour après la Pâque. Et les Juifs de l'Ancien Testament avaient reçu de Dieu de célébrer ce 50e jour comme la fête de la moisson, une fête de reconnaissance à Dieu qui est un Dieu de grâce et qui fait en sorte que les humains aient de quoi se nourrir. C'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons acquis pour évidence que tout ce que nous avons, c'est nos propres labeurs qui nous le donnent. Nous en sommes tellement convaincus que quand un métro est en retard d'une minute, on dit « c'est pas possible, il aurait dû être à l'heure ». Parce que nous sommes rentrés dans une modernité où nous croyons que tout est acquis et tout est évident. Mais souvent, comme le disent les gens eux-mêmes, la nature nous rappelle que tout n'est pas si évident. Quand les catastrophes nous frappent et que nous cherchons à comprendre pourquoi nous avons été frappés par la catastrophe et pas les autres, alors là, on se pose des vraies questions. On aurait toujours voulu que les malheurs frappent les autres, que les catastrophes sautent notre pays et qu'ils atteignent les autres pays. Quelqu'un disait une fois, mais quand tu pries et que tu dis, Seigneur, que ce malheur saute mon pays, où veux-tu que ce malheur aille? Dans quel autre pays veux-tu qu'il aille? Tout n'est pas évident. Ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il avait dit que chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour que tu vis, chaque bien net que tu as est une grâce de Dieu, que tu le saches ou pas. La Bible dit, car Dieu fait du bien aussi bien à ceux qui le connaissent comme à ceux qui ne le connaissent pas. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Quand la pluie tombe, bah, malheureusement, pour quelques-uns, on aurait voulu qu'elle arrose que ceux qui font le bien dans le monde. Parce que la pluie est nécessaire. Nous le vivons ici en France. Il y a certaines régions dont la nappe phréatique est au plus bas et qu'on a besoin d'eau. Quand nous ouvrons nos robinets, nous croyons que c'est une évidence. L'eau va toujours couler. Non, l'eau n'a pas toujours coulé, les bien-aimés. Il y a des endroits du monde où l'eau ne coule pas de source. C'est une grâce. Ne le croyez pas que c'est une évidence. C'est pour cela que Dieu avait donné cette fête dans l'ancienne alliance. Pour que le peuple se rappelle que le Dieu du ciel et de la terre est celui qui fait en sorte que les humains aient leur bien-être à tous les niveaux, notamment le bien-être au niveau de la nourriture, faite de la moisson, faite des prémices. Et il venait ce 50e jour, il se rassemblait, comme on l'a vu dans ce texte, à Jérusalem, pour remercier ce grand Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné, de ce qu'il les a bénis, de la providence divine. C'est un mot qu'on aime utiliser. C'est la providence, n'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Nous avons lu ce texte. Je lirai pas cette portion du texte. Je lirai la dernière portion du texte qui n'a pas été lue, à partir du verset 14. Vas-y encore, s'il te plaît. Voilà. Alors, Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. C'est là ce que vous voyez et entendez. Verset 34. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel. Mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Amen. Voilà le témoignage de ce qui s'est passé. Cette fête de Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Dieu a honoré sa promesse. La Bible dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit aussi. Et des fois, nous pensons que Dieu n'existe pas. Dans notre siècle des Lumières, certains écrivains éloquents de grand nom ont pu dire « Dieu est mort ». Vous savez, vous pouvez proclamer 10 000 fois que Dieu est mort. Ça ne change pas le fait que Dieu est vivant. Parce que Dieu est au-dessus de notre contingentement. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons dire de lui. Heureusement qu'il ne prend pas tous nos mots à la lettre. Heureusement que des fois, il dit, oula, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent. Parce que nous, on est susceptibles. Si quelqu'un nous dit des choses aussi mauvaises sur nous, s'il met notre confiance en doute, s'il met notre identité en doute, s'il met notre honnêteté en doute, nous sommes tout de suite un peu pas bien. Et nous voulons tout de suite réagir et parfois corriger. Si Dieu devait corriger à chaque fois nos écarts de langage, nos façons de penser de lui, oh, on serait bien malheureux. Heureusement que c'est ton Père qui a de la patience. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Heureusement d'ailleurs. Et voilà que ce jour-là, Dieu fait cela. Ce qu'il a promis, dont un certain prophète Joël dans l'Ancien Testament avait déjà parlé il y a bien des centaines d'années avant la venue de Jésus. L'apôtre Pierre dit, c'est ce que prophétisait Joël qui se manifeste aujourd'hui. Parce que le texte dit que ce jour-là, vu que c'était un pèlerinage, tous les juifs, prosélytes et les gens du monde entier venaient à Jérusalem. C'était un pèlerinage, on y allait tous. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grands mouvements comme ça où les jeunes se retrouvent dans des endroits pour célébrer la fête de la musique. Et les gens viennent de partout l'Europe. Et parfois, c'est énorme, des rassemblements de milliers de personnes. Chacun avec sa tente. Mais ils sont motivés par une seule passion, la musique. Ils y viennent. Chacun avec son moyen pour y venir. Certains par bus, certains par train, par avion. Et des fois, il y en a de cocasses. Quand ils vous racontent comment ils y sont arrivés, tu dis, oula, Tu as fait tout ça pour être là. Il dit, oui, il fallait que je sois là. Je ne voulais pas manquer cet événement. Et la Pentecôte était comme ça. Les gens venaient de partout. Et le texte nous dit toutes les langages, toutes les peuplades qui étaient là. On a au moins 16 représentations de peuplades qui étaient là, de tout le monde entier, en partant de l'Asie mineure, de l'Europe jusqu'en Afrique. Ils sont tous là. Arabes, sémites, africains, occidentaux. Ils sont tous représentés là ce jour de la Pentecôte. Jérusalem est plein de monde à craquer. Et c'est là que Dieu décide de parler pour toucher tous les peuples qui sont là. Parce qu'il sait que s'il le fait, en repartant chez eux, ils repartiront tous avec une bonne nouvelle. Et c'est ce que, et c'est le propos. Quelqu'un a dit dans ce paragraphe, il dit, comment se fait-il que des gens qui parlent galiléen, que chacun de nous les entende dans son langue maternelle, parler de quoi? Des bienfaits de Dieu. Waouh! Imaginez-vous la scène. Nous sommes rassemblés avec toutes les langues. Vous savez, on dit en Afrique, il y a plus de 2000 langues. En Afrique, il y a plus de 2000 langues. Imaginez-vous que ces 2000 langues soient là, dans un endroit, et que chacun de ces 2000 locuteurs de sa langue entende distinctement ce que je dis là en français dans sa langue maternelle. C'est ce qui s'est passé. Et les gens disent, non, mais là, on rêve, là, il y a quelque chose qui va pas. Ce type, il parle français, mais je l'entends en allemand, je l'entends en japonais, je l'entends en mandarin, je l'entends en yakuba, je l'entends en swahili. Comment cela peut-il se faire? Oui, parce que Dieu avait décidé ce jour-là de parler à toutes les langues du monde. Alléluia. La Bible est un livre de témoignages vrais et véridiques. Ce jour-là, Dieu a décidé de s'adresser à tous les hommes. Vous savez, Dieu a décidé cela parce qu'il veut changer le cœur des hommes. Il dit, j'ai un projet, c'est de changer vos cœurs de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire, vos cœurs sont tellement durs. Même quand vous dites vous aimez, vous êtes capable de cet amour de sortir le poison. Voici le drame de cette semaine. Un homme qui a aimé une femme dans un passé plus ou moins lointain, l'a tué, a tué ses enfants. Comment on peut faire ça? C'est ça que Dieu veut changer. On n'est pas là dans une religion stérile. On est là pour dire aux gens, Dieu veut donner une opportunité de changer les cœurs mauvais que nous avons dans nos poitrines. Dieu veut donner l'opportunité de changer nos pensées mauvaises, nos caractères de cochon. Dieu veut les changer. Et on dit, on n'en a pas besoin. Non, on en a besoin, les bien-aimés. On en a besoin. On a besoin que Dieu fasse cette effusion de son esprit et que cette effusion nous, quelqu'un a dit, et j'ai aimé cette image. Il dit, nous avons besoin, comme quand on prend un bol d'eau chaude et qu'on met une tisane dedans, nous avons besoin de laisser cette tisane faire quoi? Infuser. Pour que toute cette eau soit remplie de cette bonne saveur de cette tisane. Exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Nous avons besoin de laisser Dieu s'infuser en nous, les bien-aimés. C'est le sens de la Pentecôte. Dieu veut se rendre disponible pour nous infuser, pour que nous soyons à son image, des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Et ce matin, ces questions sont pour toi. Et pour moi, bien sûr, Stéphane l'a dit, moi j'ai eu le temps de me les poser dans ma tête et jusque-là, voilà, j'y médite encore. Où en es-tu en tant que personne humaine? Si tu es, vous savez, le chrétien, c'est pas juste celui qui vient à l'église. S'il vient à l'église, c'est déjà bien. Mais selon la définition biblique, selon Dieu, le chrétien, c'est au-delà de venir à l'église. C'est d'avoir reconnu à un moment donné, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans cet évangile de Jean, que tu es une pécheresse, que tu es un pécheur. Ça veut dire que malgré toute ta bonne volonté, tu ne fais pas toujours ce qui est bien. Ne serait-ce que dans tes pensées. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu es un pécheur, ça veut dire que tu es une pécheresse comme moi. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, parce que l'apôtre Paul, il a essayé dans l'épître aux Romains, chapitre 7, chapitre 8, il dit, j'ai essayé de faire le bien, mais à chaque fois, il y a des fois, le bien que je veux faire, c'est pas celui-là que je fais, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui qui apparaît, alors que je vais voulu faire le bien. Il dit, j'ai essayé et essayé à nouveau, mais ça m'embête ce truc. Ça me rend prisonnier. Des fois, j'ai de bonnes pensées pour quelqu'un, et puis après, c'est le mal que je ne veux pas faire que je lui fais. Il dit, malheur à moi, triste que je suis. Qui me délivrera, qui me changera pour que justement, je sois un homme plus de bien que de mal. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est pour cela que le Christ est rentré dans le monde, bien-aimé. Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu nous offre la liberté de changer de camp. De passer du camp des pécheurs au camp des justifiés. Alléluia. De ceux qui sont désormais poussés, envahis, guidés par l'amour de Dieu. Amen. Alors, cette communauté-là, cet enfant de Dieu-là, la question c'était, où en es-tu en tant qu'être humain, où en es-tu en tant que chrétien, chrétienne, où en es-tu en tant qu'église, où en sommes-nous en tant qu'église? Le mot kérigma, c'est un mot grec qui veut dire juste proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Proclamation de la bonne nouvelle. Cette proclamation n'était pas juste un fait de l'oralité. Vous savez, proclamer souvent, ça prend le sens de dire quelque chose. Non. Proclamer, c'est pas que dire. C'est vivre, c'est être. N'est-ce pas? Quelqu'un donnait un conseil à une autre personne et la personne lui a dit, tu sais, si le conseil que tu me donnes, si toi-même tu le faisais, ça serait peut-être plus parlant pour moi, parce que tu me dis quelque chose que tu ne vis pas. J'ai un peu de mal à voir si ça marche ou pas, parce que si ça marchait, tu l'aurais fait toi. Et puis la personne lui dit, ouais, mais fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est facile de dire ça. Et Jésus a dit, non seulement faites ce que je vous dis, mais regardez, moi-même je le fais. Quand Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, lui-même, il a donné sa vie pour nous. Il dit, personne ne me prend cette vie. Je l'ai donnée parce que c'était important pour moi, pour que mes frères, les êtres humains, soient sauvés. Il dit que l'amour se construit dans la souffrance. Et il a vécu cela. Il a été accusé à tort, innocent qu'il était. La Bible dit comme un mouton qui ne peut pas se défendre, on l'a mené à l'abattoir, alors qu'il aurait pu se défendre parce qu'il est Dieu. Et devant ce grand gouverneur qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné pour cet instant. Parce qu'à l'heure où nous sommes, des myriades d'anges sont postés dans le ciel et sont prêts à intervenir à un seul signal de ma voix. Mais c'est pour cette heure que je suis venu, je ne donnerai aucun signal. Je vais accepter de mourir comme un maudit pour sauver les hommes. Savez, nous, si quelqu'un est en train de m'agresser et que je sais que j'ai le pouvoir de le détruire, ah bah, il va déguster, hein, celui qui m'agresse. Et Jésus dit, non, il va pas déguster parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Et il a été traité comme un vulgaire bandit. Il a eu cette phrase quand même qui reste un écho fort. Il dit, et pourtant j'étais au milieu de vous chaque jour. Je n'ai volé personne, je n'ai agressé personne, je n'ai menti à personne, j'ai passé mon temps à faire que du bien, et vous venez m'arrêter comme un bandit. Allez-y. C'est ça notre humanité. Ceux qui font le bien, on les prend pour des bandits. Et Jésus a donné sa vie pour cela, bien-aimé. C'est ça la proclamation. Vas-y, mon frère. Ces éléments de proclamation, les chrétiens de cette première église l'ont compris. Dans la manifestation de leur rassemblement. Proclamer, c'est vivre en église. Et il avait compris. Ces petites églises dans leur maison. Ils ont compris et qu'ils voulaient, pousser par l'esprit, dire aux gens que c'est bien d'accepter Jésus. Et dans leur maison, ils invitaient des amis. Ils invitaient des parents. Ils invitaient des compagnons de synagogue. Ils invitaient des voisins, des collègues. Et ils s'organisaient pour cela. Le changement de leur vie aussi était kérigmatique, c'est-à-dire la façon dont leur vie avait été bouleversée par cette vision nouvelle de Jésus-Christ proclamait qu'ils avaient reçu la bonne nouvelle. Eux-mêmes, ils étaient en quelque sorte un peu une bonne nouvelle. Leur vie disait, regardez, c'est vrai, Dieu change les cœurs. Il a changé le mien. Je suis pas encore parfait, mais entre hier et le jour où je suis maintenant chrétien, ah, je peux te dire, il y a un océan qui est passé par là. Dieu m'a tellement changé en bien. Et j'aimerais qu'il continue tellement de le faire. Kérigmatique par la qualité de leur vie en communauté. Ils avaient compris que les êtres humains ne sont pas des êtres isolés. L'humain vit en relation. Nous sommes par définition des êtres relationnels. Parce que nous le tenons de notre Père. La Bible dit que Dieu est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont en communion les trois. Et c'est ce que nous sommes. Et ils ont compris que c'est ensemble que nous devons démontrer que la bonne nouvelle est vraie. Regardez, nous sommes capables, malgré nos origines différentes, malgré nos situations sociales différentes, nous sommes capables de faire communauté par l'action du Saint-Esprit. Et c'est vrai. Et dans ce premier siècle, c'était énorme ce qu'ils vivaient. Il y avait des esclaves qui étaient des chrétiens, il y avait des hommes d'affaires qui étaient des chrétiens, il y avait des femmes libres, des femmes esclaves, mais dans la communauté chrétienne, il n'y avait ni esclaves, ni hommes libres, ils étaient tous égaux. Et c'était un choc pour la société de voir que des gens de conditions sociales différentes vivaient ensemble comme cela. Ils s'aimaient. Ça les a. C'était une bonne nouvelle. Et ils ne se contentaient pas juste d'être l'église de Jérusalem. Ils avaient à cœur que tout le monde entier entende cette bonne nouvelle. Donc, même étant dans cette localité, ils apportaient leur contribution pour que cet évangile atteigne d'autres régions. Et même au-delà des régions. Et même au-delà des régions. Et même au-delà des régions. Voilà ce que la Pentecôte a fait. Pendant 3 siècles, pendant 300 ans, ce petit événement qui a eu lieu en Actes chapitre 2 a bouleversé le monde entier. De Jérusalem jusqu'à Rome. Mais en bien, ça, c'est comme s'il y avait une onde qui s'est propagée comme ça de l'amour de Dieu. D'une bonne odeur qui touchait les hommes et qui changeait de vie, qui changeait de communauté, qui changeait des familles. Oh, Jésus. Que j'aurais voulu que la famille de cette femme et de ce monsieur soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Que j'aurais voulu qu'il soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Que j'aurais voulu qu'il soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Mais nous ne sommes pas à l'abri parce que même aujourd'hui, dans des familles chrétiennes, ce type de drame arrive aussi. Malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? Parce que nous ne laissons plus l'Esprit de Dieu nous. Ah! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Vas-y, s'il te plaît. Les foyers chrétiens sont la stratégie de Dieu. Faut pas s'y tromper. Dieu est l'initiateur de la famille. La famille avec un grand F. Et les foyers, là où nous vivons, sont stratégiques entre les mains de Dieu. Pour manifester l'amour de Dieu, bien-aimés. Pour manifester l'amour de Dieu. Ces foyers-là, c'est dans ces foyers que Dieu veut que nous vivions ces choses, par l'Esprit de Dieu. Pour montrer la bonne nouvelle. L'ennemi le sait tellement bien qu'il a mis à mal les couples chrétiens, qu'il a mis à mal les familles chrétiennes. Parce qu'il sait que si là, ce lieu stratégique de Dieu. Vous savez, dans une guerre, quand les lieux stratégiques sont touchés, c'est des défaites. C'est des défaites. Dans ce pourrissement qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, avec des hommes et des femmes à la rue, des enfants à la rue, c'est un déchirement de cœur. On nous dit que dans cette folie, une nation que je tairai a décidé de frapper tous les lieux stratégiques d'une autre nation. Et que l'un des responsables de cette nation a dit, je vais réduire ce pays pour qu'il revienne au 18e siècle. Et qu'ils ont pris la décision de frapper tous les lieux stratégiques énergétiques en eau et en électricité pour que la population soit encore dans la misère. C'est ce que l'ennemi fait, hein, il sait. Il sait que le foyer, les familles chrétiennes sont des lieux stratégiques. Plus il frappe là, plus l'écho négatif est immense dans la société. Certains qui s'élèvent contre les valeurs chrétiennes disent, regardez, même les chrétiens sont plus capables de tenir leurs propres valeurs. Même les chrétiens sont plus capables de tenir leurs propres valeurs. Si eux, ils ne sont pas capables de tenir leurs propres valeurs, pourquoi vous nous demandez à nous de vivre ces valeurs-là? Ironie du sort. Bien-aimés, la Pentecôte est une occasion de laisser Dieu revenir nous visiter dans nos foyers. Revenir infuser nos foyers. Revenir infuser nos relations mari-femme. Venir infuser nos relations parents-enfants. Venir infuser nos relations de notre fraternité ou de notre sorologie. Si vous avez des frères et des sœurs biologiques, laissez Dieu infuser vos relations. Car c'est là aussi, famille. Ces gens-là, du premier siècle, l'avaient compris. Poussés par l'Esprit de Dieu, ils avaient compris que leur famille, leur foyer, était un lieu stratégique pour Dieu. Ils ont laissé Dieu faire. Et trois siècles durant, ils ont... Terminons avec nous individuellement. Vas-y, frère. Encore. Et pour nous, alors, de façon individuelle, cette éclosion de cette nouvelle communauté transformée, comment se manifeste-t-elle? Vas-y encore. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dieu, ah, mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, toi qui es là dans cette salle de culte avec moi, Dieu a un projet. Dieu a un projet de bonheur. Il aimerait tellement que nous soyons de belles personnes. Il dit qu'il a donné son esprit pour que nous puissions être impactés par cet esprit, parce que nous aurions déjà reconnu que nous sommes pécheurs et que nous aurions demandé à Dieu de nous sauver comme ces hommes dans Actes chapitre 2. Que ferions-nous? Et Pierre dit, répentez-vous, ça veut dire, reconnaissez que vous êtes des pécheurs et demandez à Dieu que vous voulez changer de direction. Vous savez, la conversion, c'est, je suis en train d'aller dans le mur là, en face. Je suis en train d'aller dans le mur. Et tout à coup, il y a une lumière qui me dit, tu es dans la mauvaise direction. Change de direction. Tu dis, oula, j'avais même pas vu que j'allais dans le mur. Merci Seigneur. Et du coup, tu changes de direction. C'est ça la conversion. Et tu es sur la bonne voie désormais. Et sur cette bonne voie-là, Dieu dit, en plus, je te fais des cadeaux. C'est le fruit de mon esprit. Et ces fruits-là, c'est quoi? Vas-y, s'il te plaît. C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. Dieu veut t'investir de plus en plus. En communion avec lui, il veut t'investir de l'amour, il veut t'investir de la joie, il veut t'investir de la paix. Pour que toi-même, tu sois capable de donner de l'amour, pour que toi-même, tu sois capable de transmettre cette joie, pour que tu sois capable d'être une femme, un homme de paix. Ah, quel beau programme. De la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, la maîtrise de soi. Moi, je veux ce programme-là, Seigneur. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Mais je veux aussi cela pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Aspire, la Bible dit aspirer à ces choses. Demande-nous à Dieu avec force et conviction, je veux ressembler à ce portrait-là. Car il est beau, non seulement pour moi, mais il va être aussi bien pour les gens que j'aime. Parce que ça va les impacter positivement. Ah, c'est important que les gens que nous aimons, nous soyons des personnes qui fassions du bien aux gens que nous aimons. Et si c'est le cas, même ceux qui nous veulent du mal, nous serons capables alors de leur faire du bien. Que Dieu nous aide. Alors ce matin, bien-aimé, regarde à la façon dont tu te conduis dans la maison de Dieu, qui est l'Église. À la façon dont tu vis ta vie chrétienne, si tu l'es, si tu ne l'es pas, la Bible dit qu'il n'est pas tard. Dieu te cherche aussi. Il veut que tu te tournes vers lui. Et demande-toi, est-ce que tu as renoncé au péché? Vous voyez, des fois, on arrive à faire un mal et qu'après on regrette, on dit c'est pas ce que j'avais voulu dire. Mais c'est trop tard, la parole est sortie et ça pique. C'est pas ce que j'avais voulu faire et trop tard, le geste, le comportement, il est parti et ça blesse. C'est pas ce que j'avais voulu penser, mais c'est trop tard. On a cultivé cette pensée, elle est là, et ça nous souille. As-tu renoncé? L'Esprit de Dieu est venu pour nous aider à faire quoi? À nous convaincre de péché. Il est venu pour nous aider. On a une aide que Dieu nous donne. Profitons-en. Que le Seigneur nous donne de répondre positivement. Que son esprit soit avec chacun de nous. Que sa grâce soit avec nous. Amen.
Donc bien sûr le pasteur pour s'être laissé guider par Dieu pour ce message qui nous a, en tout cas pour moi, qui m'a beaucoup parlé. Vraiment que l'amour de Dieu puisse nous envahir, puisse nous comprendre en fait comment Dieu nous aime et que son amour, c'est un amour qui est en proie au changement. Parce que nous, lorsque nous regardons à ce monde, et à ces faits divers, en fait, on voit que nous avons raison de compter uniquement sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment transformer nos vies, quoi.